Vous écoutez, on lit pour vous.
2 ans après le début de la guerre, les réfugiés soudanais continuent d'arriver au Tchad. Un texte de Moulid Oujale, paru le 17 avril 2025 sur le site web du Haut Commissariat aux réfugiés. Alors que le conflit au Soudan entre dans sa 3e année, les réfugiés continuent d'affluer chaque jour au Tchad, mettant à rude épreuve les ressources du pays, déjà mises à mal par la réduction de l'aide internationale. « Je ne pensais pas survivre », confie Aziza, alors qu'elle emballe soigneusement ses affaires dans un centre de transit de la ville frontalière d'Adré, dans l'est du Tchad. Cette mère de 2 enfants, âgée de 41 ans, a récemment franchi la frontière pour fuir la guerre au Soudan. Aziza fait partie d'un groupe de familles nouvellement arrivées qui sont transférées plus loin de la frontière vers un camp où elles pourront bénéficier d'une assistance humanitaire vitale. « Je me sens en sécurité maintenant. Ici, nous n'entendons pas le bruit des avions de combat dans le ciel, » dit-elle, évoquant la peur constante des attaques dans sa ville natale, Niala, dans l'ouest du Darfour, qu'elle a fui. L'exode de familles désespérées fuyant le conflit au Soudan se poursuit sans relâche depuis son déclenchement en avril 2023. Près de 4 millions de réfugiés vivent désormais dans les pays voisins et au-delà. À ce jour, plus de 770 000 réfugiés soudanais ont cherché refuge au Tchad, l'un des pays les plus pauvres au monde, dont 86% sont des femmes et des enfants. Il s'ajoute aux 200 000 Tchadiens qui vivaient au Soudan en tant que réfugiés. Les nouveaux arrivants exercent une pression énorme sur les ressources limitées du pays. À Adré, par exemple, plus de 280 000 réfugiés soudanais vivent actuellement dans des camps spontanés surpeuplés qui ont vu le jour le long de la frontière dépassant largement la capacité d'accueil de la population locale, qui compte environ 40 000 personnes. En raison d'un grave manque de financement, le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a été contraint de suspendre ou de restreindre certains services essentiels, tels que l'éducation et la santé, ainsi que la construction de nouveaux camps loin de la frontière où les nouveaux arrivants pourraient être transférés. Les camps existants souffrent d'infrastructures inadéquates, notamment d'un manque d'hôpitaux, d'écoles, d'eau et d'installations sanitaires. Déplacement continu. Pendant ce temps, des familles continuent d'arriver chaque jour, après avoir enduré des périples dangereux et épuisants, franchissant de multiples points de contrôle où des hommes armés les interrogent, les intimident et les extorquent souvent. De nombreuses femmes réfugiées font également état de graves violations des droits humains, notamment de violences et d'abus sexuels. Nous avons passé plusieurs postes de contrôle où l'on nous a posé des questions telles que « Qui êtes-vous ? » et « Que transportez-vous ? » se souvient Aziza. Nous répondions toujours que nous étions des gens ordinaires, que nous ne transportions que de la nourriture pour nos enfants. À un poste de contrôle, le chauffeur a dû payer une taxe, ce qui nous a permis de poursuivre notre voyage. Le HCR et ses partenaires sont sur le terrain auprès des réfugiés à la frontière pour leur fournir une aide d'urgence, notamment de la nourriture, de l'eau, des abris et des soins médicaux. Si Aziza estime avoir eu la chance d'arriver saine et sauve, ce n'est pas la première fois qu'elle est déracinée de chez elle. Elle a passé 10 ans dans le camp de déplacés internes d'El Salam, à Niala, après avoir fui le conflit meurtrier du Darfour en 2003. Ses enfants, nés dans ce camp, n'ont jamais connu autre chose. La majeure partie de sa vie d'adulte a été marquée par la violence, la peur, L'incertitude et les déplacements successifs, cette fois-ci de l'autre côté de la frontière, loin des membres de sa famille. J'ai un frère, à Niala, qui n'avait pas les moyens de payer le transport pour fuir avec sa famille, explique-t-elle. Il a une grande famille de 11 enfants, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour lui. Ma famille est plus petite, et nous avons pu fuir la guerre. Je n'ai pas pu le contacter depuis mon arrivée ici. Le Tchad accueille 1,3 million de personnes déplacées de force provenant des pays voisins, notamment du Soudan, de la République centrafricaine et du Cameroun. Cependant, le pays est déjà confronté à une insécurité alimentaire généralisée, à des conflits intercommunautaires et aux conséquences de phénomènes météorologiques extrêmes. L'ONU estime que 7 millions de personnes, soit près de 40% de la population tchadienne, ont besoin d'une aide humanitaire. Des périples dangereux. Même avant le conflit actuel au Soudan, le Tchad accueillait 400 000 réfugiés soudanais qui avaient fui les violences au Darfour en 2003. Esha Ismail est l'une de ces personnes. Elle est arrivée dans le camp de réfugiés de Farkana en 2004, à l'âge de 12 ans. « J'étais enfant quand je suis arrivée ici avec mes parents », raconte-t-elle. « J'ai grandi ici, je me suis mariée et j'ai maintenant 6 enfants. » Pendant 20 ans, nous avons continué à penser que nous rentrerions un jour, mais ce n'était pas sûr, et maintenant la situation est encore pire. Esha est présidente de la communauté des réfugiés de Farkana. Elle milite pour de meilleures opportunités pour les personnes déracinées, en particulier pour les jeunes qui, en raison de leurs perspectives limitées, risquent de se lancer dans un périple vers le nord, en Libye et au-delà, à la recherche d'un emploi et d'un avenir meilleur. Je m'inquiète aussi pour mes propres enfants, dit-elle. Beaucoup de jeunes se sentent désespérés et peuvent être tentés de se lancer dans des périples dangereux, comme traverser la Méditerranée ou se livrer à des activités risquées dans les mines d'or, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Les récits d'Aziza et d'Esha sont séparés de 20 ans. Mais toutes deux ont été déracinées par les vagues de violence qui ont secoué le Darfour. Leur parcours nous rappelle avec force ce qui se passe lorsque les conflits restent sans solution. Les déplacements deviennent générationnels et le rêve de rentrer chez soi s'éloigne de plus en plus. Des moyens qui s'amenuisent. Lors d'une visite au Tchad la semaine dernière, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déploré le fait que la guerre de l'autre côté de la frontière se poursuit. Le moment est venu pour les militaires qui font la guerre à leur propre peuple au Soudan de cesser les hostilités et pour la communauté internationale de les y contraindre. Il a ajouté que les ressources pour répondre à l'urgence humanitaire s'amenuisaient. Si cela continue, si cette tendance ne s'inverse pas, cela signifiera davantage de vies perdues, davantage de souffrances et une prise en charge moindre pour ces personnes qui ont subi des violences terribles, a averti Filippo Grandi. De retour au centre d'accueil d'Adré, Aziza et ses enfants ont rejoint d'autres familles à bord d'un camion où ils ont chargé leurs effets personnels, tandis que de plus petits véhicules emmenaient les personnes vulnérables, notamment les malades, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Après 5 heures de route, sur un terrain désertique et accidenté, ils sont arrivés au camp, un vaste site nouvellement établi où s'alignent d'immenses rangées de maisons recouvertes de tôles ondulées. Après avoir reçu des articles de première nécessité, tels qu'un kit de cuisine, des couvertures, des nattes et une moustiquaire, Aziza se tient à la porte de son nouveau logement, entourée de ses deux enfants. « Je suis heureuse d'être enfin arrivée, » dit-elle, entamant ainsi un nouveau chapitre dans sa longue vie de déplacée. « J'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes dans cette communauté et de retrouver ceux avec qui nous avons fui le Soudan. » C'était 2 ans après le début de la guerre, les réfugiés soudanais continuent d'arriver au Tchad, un texte de Moulid Oujale, paru le 17 avril 2025 sur le site web du Haut Commissariat aux réfugiés. HCR organise le premier convoi de retour volontaire depuis les camps du nord-est de la Syrie. Un texte de Céline Schmitt et Hamid Marouf, paru le 28 avril 2025 sur le site web du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR. Les familles concernées bénéficient d'un transport gratuit et d'autres formes d'aide au moment de quitter le camp d'Arisha, après plus de 7 ans sur place. Mais les coupes budgétaires compromettent la capacité du HCR à faciliter le retour d'un plus grand nombre de Syriens. Il y a quelques jours, un matin de bonne heure, dans le camp d'Arisha, pour personnes déplacées internes, nord-est de la Syrie, il y avait beaucoup d'animation aux abords de l'entrée du site. Des personnes chargeaient leurs biens dans des camions et saluaient leurs amis. Certains riaient, d'autres pleuraient, alors que 84 résidents du camp montaient à bord de minibus qui allaient enfin les ramener chez eux après plus de 7 ans passés à Arisha. Parmi les premières personnes à rentrer chez elles le 15 avril avec l'aide du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés se trouvait Shahzad et ses filles, âgées de 7 et 8 ans. Les deux filles attendaient avec impatience que leur mère termine les formalités pour commencer leur voyage de retour vers Al-Mayadan, dans la province de Deir ez-Zor, à environ 200 kilomètres au sud, où elles retrouveront leur père qui a passé les 2 derniers mois à Damas pour suivre un traitement médical. Je souhaite à tout le monde de ressentir la même joie que moi aujourd'hui. J'attends ce moment depuis 7 ans, affirme Shahzad. Il n'y a plus rien à craindre maintenant, ni le régime, ni rien d'autre. Shahzad a fui une offensive militaire majeure près de sa ville natale en 2017 et est arrivée dans le camp avec son mari et son aîné qui était encore bébé. Sa plus jeune fille est née dans le camp et aucune des 2 enfants n'a de souvenir de l'endroit que leurs parents appellent leur maison. Mes filles n'arrêtent pas de rêver à tout ce qu'elles feront quand nous serons de retour chez nous, raconte Shahzad. Elles étaient si heureuses en rangeant leurs affaires. Ma joie a doublé quand j'ai vu mes enfants heureux de rentrer à la maison. La chute du gouvernement Assad en décembre 2024 a ouvert la perspective d'un retour chez eux pour plus de 7 millions de Syriens qui restent déplacés à l'intérieur du pays après 14 ans de conflits et de crises, ainsi que pour quelques 5,5 millions de réfugiés syriens toujours accueillis dans les pays voisins. On estime à 214 000 le nombre de personnes déplacées vivant dans des camps tels que celui d'Arisha, ainsi que dans des sites informels répartis dans tout le nord-est de la Syrie. La plupart ont connu un déplacement prolongé depuis le début du conflit, passant en moyenne 9 ans loin de chez elles. La majorité d'entre elles sont originaires d'autres régions du nord-est de la Syrie. 41% des ménages provenant de la province de Deir ez-Zor, tandis que les autres sont originaires des provinces de Hama et de Homs. Lors de nos interactions régulières, les Syriens déplacés vivant dans le camp d'Arisha ont demandé au HCR de les aider à financer leur retour chez eux, car le coût est très élevé. Environ 500 dollars par famille, explique Marcel Collin, chef du bureau du HCR à Qamishli. Grâce à notre soutien, chaque famille dispose d'un camion pour charger ses effets personnels, ce qui est essentiel pour les aider à reconstruire leur vie chez eux. Outre le transport, le HCR et ses partenaires, le Croissant Rouge Arabe Syrien et le Comité Patriarcal de Développement Saint-Éphrem, accompagnent les familles tout au long du processus et continuent de suivre leur situation une fois qu'elles sont rentrées chez elles. L'organisation Al-Yamama, partenaire du FNUAP, fournit des kits d'hygiène aux femmes et aux filles. Les personnes, de retour chez elles, ont déclaré au HCR qu'il y a de nombreuses mines dans les environs de Deir ez-Zor et certains parents du camp d'Arisha ont retardé leur retour par crainte pour leurs enfants. Les séances de sensibilisation aux mines organisées spécialement pour les enfants dans les centres communautaires du HCR contribuent à prévenir les accidents. Les centres communautaires fournissent également des services essentiels dans les zones de retour, tels que des conseils juridiques pour les personnes qui ont perdu leurs documents d'identité ou leur titre de propriété. Le HCR participe également à la réparation des abris, à l'amélioration de l'accès aux services de base tels que l'eau, les soins de santé et l'électricité, et à la promotion de l'emploi et des moyens de subsistance, qui sont les principales demandes formulées par les personnes retournées pour les aider à reconstruire leur vie. Certaines familles, dont celle de Charzad, ont emporté la tente dans laquelle elles vivaient dans le camp et l'ont installée près de leur maison pendant qu'elles effectuent les travaux de réparation indispensables. Sans aide, nous ne pourrions pas payer le transport, qui est trop cher, explique Shahzad. Ma maison est toujours là, mais elle est détruite. Nous ne pouvons donc pas y vivre pour l'instant. Les services essentiels font également défaut. Alors que le HCR a élaboré un plan pour venir en aide à quelque 3,5 millions de réfugiés et de déplacés syriens qui devraient rentrer chez eux en 2025, dont près d'1,5 million l'ont déjà fait. Ces efforts sont gravement compromis par les coupes drastiques dans le financement de l'aide humanitaire. Le HCR sera contraint de réduire de 30% ses effectifs en Syrie cette année et de fermer 44% des centres communautaires qu'il soutient à travers le pays. C'est un moment que les Syriens déplacés attendent depuis des années. Et nous avons maintenant une occasion unique de les aider à rentrer chez eux, déclare Richard Ndola, coordinateur du HCR pour le rapatriement des réfugiés syriens. Créer les conditions propices au retour volontaire des personnes déplacées est au cœur de la mission du HCR. Nous sommes fermement déterminés à venir en aide à tous les réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux, mais les coupes budgétaires compromettent notre capacité à répondre à leurs besoins, ajoute Richard Ndola. Notre personnel dispose d'une longue expérience et d'une expertise solide dans l'aide aux réfugiés, mais nous ne pourrons étendre cette aide à d'autres camps et sites d'accueil dans le nord-est de la Syrie et au-delà que si nous disposons de ressources suffisantes. C'était le HCR organise le premier convoi de retour volontaire depuis les camps du nord-est de la Syrie, un texte de Céline Schmitt et Hamid Marouf, paru le 28 avril 2025 sur le site web du Haut-Commissariat aux réfugiés. renvoyés dans leur pays, les réfugiés afghans confrontés à un avenir incertain. Un texte de Faramarz Barzin, paru le 7 mai 2025 sur le site web du Haut Commissariat pour les réfugiés. Au cours du mois d'avril, plus de 280 000 Afghans ont été forcés de rentrer chez eux ou ont été expulsés du Pakistan et de l'Iran. Nombre d'entre eux ne disposent d'aucune ressource et ont besoin d'une assistance d'urgence pour se reconstruire. Le poste frontière de Torkham, qui relie la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa à la province afghane de Nangarhar, est habituellement animé par des commerçants et des voyageurs, mais ces dernières semaines, on y croise essentiellement des dizaines de milliers de familles afghanes épuisées et angoissées qui reviennent du Pakistan. La plupart d'entre eux sont arrivés à Torkham et à d'autres postes frontières après avoir été contraints ou poussés à rentrer suite à la reprise du plan pakistanais de rapatriement des étrangers en situation irrégulière, lancé à l'origine à la fin de l'année 2023. Rien qu'au cours du mois d'avril, quelque 144 000 Afghans sont rentrés du Pakistan. Parmi eux, près de 30 000 ont été expulsés. Nombre d'entre eux retournent dans un pays qu'ils ont quitté il y a plusieurs décennies ou qu'ils n'ont jamais connu, avec peu d'effets personnels et aucune idée de ce que leur réserve l'avenir. Ezatullah, 45 ans, a récemment franchi la frontière afghane de Torkham avec sa femme et ses 7 enfants. Ils nous ont dit de partir d'urgence, relate-t-il. Tous nos biens ont été laissés derrière nous. Nous n'avons plus rien. Né au Pakistan, Ezatullah y a passé toute sa vie, gagnant modestement sa vie comme ouvrier à Rawalpindi. Il n'a aucune idée de l'endroit où lui et sa famille iront, ni de la façon dont il s'occupera de ses enfants dans un pays où le chômage et la pauvreté ont augmenté ces dernières années, laissant la moitié de la population tributaire de l'aide pour satisfaire ses besoins essentiels. Ezatullah n'a pas de famille sur laquelle il puisse compter en Afghanistan. Un prêt commercial contracté lors de son bref retour il y a 10 ans pèse également sur lui. La petite aide financière d'urgence dont il a bénéficié à la frontière de la part du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, réduite en raison d'un manque de financement, servira à rembourser sa dette et à acheter de la nourriture. Il ne lui restera pas assez d'argent pour payer son loyer ou son transport. Outre la question de savoir où sa famille va vivre, sa plus grande inquiétude porte sur ses enfants. Mes enfants ont besoin de soins. Dieu est leur ultime protecteur, mais je suis leur gardien sur cette terre. Si je ne peux pas subvenir à leurs besoins, ce sera très douloureux, souligne-t-il. Je veux que mes enfants étudient, qu'ils deviennent des gens instruits. Si mon souhait se réalise, que pourrais-je demander de plus en ce monde? Des Afghans sont également expulsés ou subissent des pressions pour quitter l'Iran. À eux deux, le Pakistan et l'Iran accueillent depuis des décennies la grande majorité des 5,25 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile afghans de la région, mais les deux pays ont vu croître le sentiment négatif à l'égard des Afghans dans un contexte de difficultés économiques. En début de semaine, Babar Baloch, porte-parole du HCR, a déclaré que l'arrivée de plus d'un quart de million d'Afghans en provenance du Pakistan et de l'Iran en un seul mois menaçait de plonger l'Afghanistan dans une crise humanitaire encore plus grave et que forcer ou faire pression sur les Afghans pour qu'ils rentrent n'est pas viable et pourrait déstabiliser la région. Le HCR a exprimé sa vive préoccupation au sujet de la situation des femmes et des jeunes filles afghanes, forcées de retourner dans un pays où elles sont confrontées à des restrictions croissantes de leur droit de travailler, d'étudier ou de se déplacer librement. Âgée de 40 ans et mère de deux filles, Asma s'est rendue au Pakistan en 2021 pour y recevoir un traitement contre le cancer. Lorsqu'il est devenu trop coûteux de faire l'aller-retour depuis son domicile de Mazar et Sharif, elle a abandonné son emploi d'enseignante et s'est installée à Peshawar avec sa famille. Il lui restait encore un an de traitement lorsque son mari a été arrêté par la police et qu'on leur a demandé de partir. Ils n'avaient ni le temps ni l'argent pour transporter leurs biens. Nous avions déjà vendu tous nos biens en Afghanistan et maintenant nous avons dû tout laisser derrière nous au Pakistan, explique-t-elle. Nous n'avons pas d'endroit où loger et nous n'avons rien du tout. Ses proches à Mazar et Sharif sont eux-mêmes en difficulté et ne peuvent pas les aider. « Je crains que mes enfants ne prennent du retard dans leur éducation », a-t-elle indiqué. Le HCR travaille avec ses partenaires pour aider les familles qui rentrent au pays avec un soutien financier d'urgence afin qu'elles puissent payer la nourriture et le transport, mais dans un contexte de coupes budgétaires sévères. Un soutien international plus important est nécessaire pour fournir une assistance supplémentaire tels qu'un soutien spécialisé aux femmes et aux enfants à risque, des services de soins de santé, une assistance juridique et une aide à la réintégration. Le HCR lance un appel de 71 millions de dollars pour répondre aux besoins des rapatriés au cours des 9 prochains mois. La vie de millions d'Afghans ne tient qu'à un fil, a déclaré le représentant du HCR en Afghanistan, Arafat Jamal. Un soutien international accru au cours des prochains jours et des prochaines semaines sera essentiel pour répondre à cette crise. C'était Renvoyer dans leur pays les réfugiés afghans confrontés à un avenir incertain, un texte de Faramarz Barzin, paru le 7 mai 2025 sur le site web du Haut-Commissariat pour les réfugiés.